1,1760 pour 1 euro, ce qui veut dire que le dollar repère 0,60% par rapport à la monnaie européenne. Alors que penser de tout cela? Peut-être que d'une part, c'était dans les cours, c'est le fait accompli. D'autre part, on peut peut-être penser que certains y envisagent une nouvelle baisse des taux dans les semaines qui viennent de la BCE. Là, rien n'est moins sûr. D'autant que, et pourtant, on est encore à 2% en Europe et seulement 1,25% aux États-Unis. Et M. Greenspan a même laissé entendre qu'il pourrait encore baisser les taux. Donc, indiscutablement, cette guerre des taux n'est pas terminée, bien que cette arme pour essayer de relancer la machine, pour essayer de rééquilibrer dollar-euro, bien que cette arme semble avoir de moins en moins d'effet.
Merci beaucoup Jean-Pierre Gaillard. On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus, 12, 6, 10, 4 et As. Il est 14h et bientôt 4 minutes sur Inter. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 1974-1981, les années Giscard.
La Saufresse.
Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
Ans d'histoire. Le 19 mai 1974, en élisant Valéry Giscard d'Estaing, les Français se donnaient un des plus jeunes présidents de leur histoire. L'arrivée à l'Élysée de cet homme de 48 ans marquait aussi un tournant dans l'histoire de la Ve République. Après 16 ans de gaullisme, le pouvoir passait entre les mains d'un homme bien décidé à gouverner au centre, et 6 ans après mai 68, a engagé des réformes qui allaient profondément changer la société française. Mais en annonçant le début d'une ère nouvelle, le soir même de son élection, Valéry Giscard d'Estaing ignorait encore les difficultés qui l'attendaient et qui allaient faire échouer une des expériences politiques les plus singulières de l'histoire de la France contemporaine.
La France a choisi son président. Vous m'avez désigné, vous-même, pour exercer cette fonction. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
C'était Valéry Giscard d'Estaing, donc le jour de son élection, le 19 mai 1974. Serge Berstein, bonjour.
Bonjour.
Alors dans la revue L'Histoire, qui fête en ce moment ses 25 ans, avec un numéro spécial sur les années 70, vous avez écrit un article sur le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, une révolution manquée, écrivez-vous. Est-ce qu'on peut parler de révolution quand il s'agit quand même d'un homme qui, par sa famille politique, par tempérament, n'est vraiment pas un révolutionnaire?
Certes. Et le terme de révolution ici doit s'en entendre comme une forme de changement très profond qui effectivement est un des termes fétiches de Valéry Giscard d'Estaing après son élection, modifier le style de la vie politique française, modifier à certains égards la société française, mais non pas les structures de la société française. Et Valéry Giscard d'Estaing se fait élire sur le slogan « Le changement ». Sans le risque, c'est-à-dire sans le saut dans l'inconnu qu'aurait représenté l'élection d'un président socialiste. Valéry Giscard d'Estaing, après tout, suit l'aventure du gaullisme pratiquement depuis les origines. Il s'est rallié à De Gaulle, à la différence de la plupart de ses amis politiques, en 62. Il a été à diverses reprises ministre. Il est donc dans le sérail.
Oui, mais enfin, il a fait voter non en 69, hein, au référendum qui a provoqué le départ du général De Gaulle. Mais ce que je veux dire, justement, la révolution qui se produit quand même en 74, 1974, c'est la fin de 16 ans de gaullisme. C'est d'abord, d'une part, c'est un président très jeune, 48 ans, je crois qu'il n'y en a eu que deux avant lui, Napoléon III et Casimir Perrier, mais au XVIIe et au XIXe siècle. Mais c'est surtout, d'abord, il est élu de justesse, à peine 400 000 voix de plus que François Mitterrand. C'était un peu une surprise, et surtout, ce n'est pas un président gaulliste, même s'il a fait son chemin avec le gaullisme.
Ce n'est pas un président gaulliste, et je crois que l'intérêt de l'élection de Giscard, c'est la volonté des Français de préserver l'ensemble des acquis de la Ve République, auxquels Valéry Giscard d'Estaing a participé, et en même temps de sortir de cette forme de légitimité de la Ve République, à savoir que seul De Gaulle, puis ses héritiers directs, devait normalement exercer le pouvoir. Donc c'est un cousin un peu lointain et qui propose autre chose sans cependant bouleverser les structures mêmes de la Ve République.
Mais parce que les gaullistes, ils vont en avoir besoin. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, pas tous, votent pour lui. Et on sent bien d'ailleurs dans cette élection du 19 mai 1974 qu'on a moins voté pour Valéry Giscard d'Estaing que contre le danger, entre guillemets, que représentait pour la droite le candidat unique de la gauche. C'est en tout cas ce que l'on peut lire dans quelques journaux, en tout cas, du lendemain de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, la revue de presse Stéphanie Duncan.
Oui, une victoire de justesse, hein, qui fait dire à la droite qu'elle l'a échappé belle. Pour Jean d'Ormesson dans le Figaro, c'est, dit-il, un soulagement de voir, de peu, il est vrai, le suffrage universel refuser l'expérience socialo-communiste et le collectivisme. Soulagement aussi de l'Aurore, qui la veille encore mettait en garde contre Mitterrand et sa politique de soviet, et résumait ainsi l'échéance électorale. Le dilemme est aujourd'hui sans échappatoire, la liberté ou la servitude, pour 7 ans et peut-être pour toujours. Le journal économique Les Échos se réjouit également que la France ait, je cite, préféré la sécurité à l'aventure. En revanche, la presse de gauche, sans doute, la mauvaise hein, d'être placée si près de la victoire et du coup promet à Giscard des lendemains difficiles. Pour René Andrieux dans l'Humanité, Giscard, représentant du grand capital et des privilèges, est un président en sursis. Qu'il compte sur nous pour lui rappeler les promesses du candidat. Mauvaise humeur aussi dans Libération contre Giscard l'imposteur. Derrière le bonhomme tout miel et tout souriant, écrit Libé, se cache un personnage lié au mania de la presse capitaliste et de la finance internationale. Libération aussi se fait menaçant. Aujourd'hui, affirme le journal de Serge Julie, il y a désormais deux France face à face, classe contre classe, voilà bien une situation explosive. Alors, semblant répondre à Libération, Raymond Aron, dans le Figaro, rappelle que Giscard, élu au suffrage universel, est amené à être le président de tous les Français. Dans La Nation, le journal gaulliste, qui lui aussi elle est un peu mauvaise après l'éviction de Jacques Chaban-Delmas, eh bien Pierre Charpie, bon joueur, félicite Valéry Giscard d'Estaing, mais ne lui assure pas un soutien aveugle. Le mouvement gaulliste, dit-il, souhaite garder vis-à-vis du pouvoir sa liberté d'action et d'expression. Alors, l'avenir ne s'annonce donc pas très facile pour Giscard, en mai 1974. Le septennat qui s'ouvre risque d'être l'un des plus riches, mais aussi l'un des plus difficiles de l'histoire de la Ve République, prophétise Philippe Tesson dans le quotidien de Paris. Monsieur Giscard d'Estaing a promis le changement sans le risque. Sera-t-il l'artisan d'un changement? Demande Philippe Tesson. En tout cas, il prend le risque à sa charge.
Un commentaire, Serge Berstein, sur ces articles au lendemain de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing.
Ils sont intéressants parce qu'ils soulignent au fond l'étroitesse de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, la crainte effectivement d'espèces d'aventures que signifierait un régime socialo-communiste dirigé par François Mitterrand, mais il souligne aussi une des difficultés qui va immédiatement surgir pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que la gauche est passée à un cheveu de la victoire. Et on s'aperçoit que une grande partie de l'opinion française, au fond, qui ne s'y attendait pas, considère qu'il y a peut-être eu là une occasion manquée. Et on constate par la suite que les sondages, les élections partielles, les municipales, les cantonales, révèlent que, virtuellement, la gauche est majoritaire dans le pays. Ce qui est important politiquement, Giscard ne peut pas prendre le risque de dissoudre l'Assemblée nationale.
En tout cas, le changement, Serge Berstein, dès le premier jour, on peut l'observer, c'est un style nouveau. Moins guindé, écrivez-vous, ou moins cérémonieux. On écoute justement Valéry Giscard d'Estaing dans cette archive le jour de son investiture, après qu'il ait descendu à pied les Champs-Élysées, abandonnant la jaquette pour le complet veston. C'était le 27 mai 1974.
Et voilà le président qui revient maintenant à pied vers le palais. Content, monsieur le président?
Très content. C'est comme je le souhaitais, très naturel, très vivant, très jeune.
Cet accueil vous a surpris, vous a fait très plaisir.
Il m'a touché, il ne m'a pas surpris.
Pour moi, cette cérémonie, c'était deux choses. C'était d'abord l'idée que je me fais du président de la République française, c'est-à-dire qu'il doit être un président moderne, qui doit respecter la dignité de la France et son histoire. Et à cet égard, qu'il doit rechercher des formules nouvelles. Par exemple, la remontée des Champs-Élysées, vous l'avez vu, il n'y a pas de cérémonie qui puisse être plus belle en raison à la fois du cadre et de la population qui était là.
Étiez-vous ému ?
Oui, j'étais ému.
C'est le nouveau style de l'Élysée, alors, monsieur le président ?
C'est le nouveau style de la France.
À quoi correspond, Serge Gerstein, cette volonté, dès le début, de bousculer un peu des traditions qui remontent même au-delà de la Ve République?
Alors, comme vous l'avez dit très justement, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un révolutionnaire. En revanche, il a vécu, et à l'intérieur même, ou aux portes du pouvoir, la crise de 1968. Et il est probablement un de ceux qui ont le mieux compris qu'au-delà du gauchisme révolutionnaire, de la volonté de bouleverser les structures de la société, s'est manifesté dans la masse de la population, qu'il l'a manifesté par exemple par sa sympathie aux étudiants, ce qui n'était pas évident dès le départ, un profond désir de changement. L'idée, au fond, ce que les gauchistes de 68 avaient lancé comme slogan, 10 ans ça suffit, d'une certaine manière, une grande partie de l'opinion l'éprouve aussi.
Alors,
et par conséquent, il entend assumer, il a, en plus il est jeune, hein, à la différence de ses prédécesseurs, il entend assumer cette volonté de changement, mais en la canalisant en quelque sorte vers une modernisation de la France et non pas, bien sûr, vers le gauchisme de 68.
Alors le changement, on s'en rend compte déjà dès le début dans le choix du gouvernement dirigé par Jacques Chirac. Il faut dire qu'il l'a bien aidé dans la campagne électorale puisqu'il a abandonné Jacques Chaban-Delmas, ce qui a ouvert une voie, le candidat gaulliste, ce qui a ouvert évidemment la voie à Valéry Giscard d'Estaing. Alors il y a un gouvernement dont il écarte d'ailleurs tous les barons du gaullisme. Il y a plutôt des techniques, des gens même qui étaient réputés pour être des anti-gaullistes, Jean-Jacques Servan-Schreiber par exemple aux réformes, Françoise Giroud à la condition féminine, Simone Veil aussi, avec laquelle il va entreprendre une des plus importantes réformes. D'ailleurs, il les prend tout de suite, Serge Gerstein, dès le début, 74-75, je les cite, la baisse du droit de vote de 21 à 18 ans et des droits civils, la loi Veil donc sur l'avortement, le divorce par consentement mutuel qui facilite la procédure de divorce, la réforme Habit sur le collège unique, c'est presque des réformes de gauche. En tout cas, beaucoup d'entre elles ont été votées par la gauche.
Ce sont des réformes de gauche. J'ajouterais qu'il y a aussi des réformes de gauche dans le domaine économique et social. Par exemple, une lutte contre la crise en prenant des mesures qui favorisent les groupes les plus défavorisés de la société. Cette politique, moi j'ai envie de la qualifier, au moins pour les deux premières années du septennat, de politique social-démocrate. C'est-à-dire que on va répondre à des demandes de la société par la voie du réformisme. Alors le réformisme, c'est aussi un moyen, bien sûr, d'éviter la révolution, mais en même temps, c'est affirmer la volonté de changer la France dans la voie de la modernisation. Alors c'est vrai, par exemple, que faire voter une jeunesse qui a manifesté pendant la crise de 68 qu'elle existait en tant que telle, la prendre en quelque sorte au mot en disant vous souhaitez modifier la société, eh bien, on va vous donner le bulletin de vote qui va vous permettre de le faire. C'est évidemment le type de réforme caractéristique du giscardisme. Et c'est vrai pour les réformes des mœurs, c'est vrai pour la réforme Habit, qui est pavée de bonnes intentions, qui posera quelques problèmes et qui n'a pas d'ailleurs fini d'en poser. Mais incontestablement, la volonté de moderniser la société française, de tenir compte de tout ce qui est apparu de nouveau, de tenir compte des aspirations qui se sont manifestées en 1968, est évidente.
Alors la volonté aussi de continuer dans ce style nouveau, dans ces rapports entre le président justement et les Français, en jouant de l'accordéon en public, en descendant dans le métro, en rendant visite à des détenus en prison, en invitant les éboueurs à petit déjeuner à l'Élysée, ou en allant lui-même d'ailleurs dîner avec sa femme Anémone chez de simples citoyens. France Inter, Jean-Pierre Elkabbach, le 23 janvier 1975, le lendemain du premier dîner du président de la République dans une famille française.
Le président de la République avait annoncé, vous vous en souvenez sans doute, qu'il dînerait chez les Français. C'est ce qu'il a fait hier soir, en acceptant l'invitation d'un couple parisien, les Cucciarini.
Au menu, potage au cresson, bar braisé, côte de bœuf et jardinière de légumes, salade et fromage, avec au dessert une charlotte à la fraise.
On a fait comme si on recevait des amis, comme si on faisait un repas familial, quoi. Tout à fait, vous voyez comment est-ce que ça se passe.
Est-ce que vous avez l'impression
qu'hier soir, vous avez quand même un petit peu éclairé le président de la République sur les préoccupations des familles françaises actuellement.
Oui, je pense que ça a dû lui apporter quelque chose. Nos problèmes de travail, de logement, quelques problèmes d'inquiétude.
Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce dîner ?
Ce qui m'a étonné, c'est de voir le président de la République et Mme Giscard d'Estaing à ma table.
J'ai faim, vois-tu qu'il viendra dîner ce soir ? À 10h, il n'y a plus d'espoir. Puis c'est quand même pas bourré d'étages pour réchauffer le potage. Anémone nous a bigophoné en PCV, laissé tomber les yeux brouillés, il a le poing tout barbouillé. Elle a ajouté, attendez-nous sur votre balcon, on prend la deux chevaux de Matignon, et il aura l'accordéon. J'ai faim, crois-tu qu'il viendra dîner ce soir ? À 11h, il n'y a plus d'espoir. Même pour voir le film, il est trop tard. Et les voisins qui se marrent. Peut-être que François a dû causer à la télé de concorder des salariés, c'est ça qui l'aura contrarié. Si peu qu'il ait rencontré le laitier qu'il salue pas, il se l'est en plafonné recta, ils sont en train de faire le constat. J'ai faim, crois-tu qu'il viendra dîner ce soir ? À minuit, il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces sardines ? J'en prendrai à l'usine.
France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les années Giscard.
Et c'était Pierre Perret qui a bien fait sourire notre invité, Serge Bastan. C'était au début, Serge Bastan, d'un septennat sans histoire jusqu'au 25 août 1976, date à laquelle la démission du Premier ministre provoque la première crise politique grave du septennat de Jacques Chirac. Le 25 août 1976, Jacques Chirac.
Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin.
C'était la démission de Jacques Chirac le 25 août 1976. On n'avait jamais vu ça sous la Ve République, Serge Bastan, le Premier ministre qui décide de lui-même d'abandonner ses fonctions, il sera remplacé par Raymond Barre, et surtout de rendre public son désaccord avec le président de la République. Quelle était la raison de ce départ, indépendamment de ce qui vient d'être dit?
D'abord, vous avez raison, c'est tout à fait inouï. Tous les prédécesseurs de Jacques Chirac, lorsqu'ils ont quitté Matignon, l'ont fait sur la demande du président de la République, et quoi qu'ils aient pu éprouver dans leur fort intérieur, en s'inclinant devant la décision du président, ce qui, entre parenthèses, n'est absolument pas prévu par la Constitution de la Ve République. Ce qui s'est passé avec Jacques Chirac, c'est en quelque sorte la nomination idéale pour un président de la Ve République en 1974, qui tout à coup change complètement de nature. Nomination idéale parce que Jacques Chirac est un jeune homme politique qui a été protégé par Pompidou, et lorsque Valéry Giscard d'Estaing le nomme Premier ministre, il n'a pas la surface politique qui est normalement celle d'un Premier ministre. Autrement dit, comme De Gaulle l'a fait avant lui, par exemple, avec Pompidou, au début du ministère de Pompidou, comme Georges Pompidou, à son tour, le fait avec Pierre Messmer, il nomme quelqu'un dont l'autorité réside tout entière dans la délégation qu'il lui a confiée. Il n'a pas d'autorité par lui-même, et par conséquent, derrière le Premier ministre, c'est le président qui gouverne. Et c'est ce que fait Giscard. Le gouvernement de 1974 est formé par Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac peut nommer quelques secrétaires d'État. Et par la suite, c'est évidemment Valéry Giscard d'Estaing qui prend les décisions, intervenant beaucoup plus dans les affaires courantes que ne l'avait fait avant lui et De Gaulle et Pompidou, et adressant des instructions publiques au Premier ministre, c'est-à-dire faisant savoir au peuple tout entier ce qu'il demande au Premier ministre de faire. Autrement dit, quelqu'un qui est insubordonné.
Alors, les conséquences sont très graves, Serdestin, sur le plan politique. Jacques Chirac est à la tête, enfin, il prend la tête, d'ailleurs, d'un parti auquel il donne le nom de RPR. C'est le parti gaulliste. Il y a 183 députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, Jacques Chirac va être très critique vis-à-vis de la politique du président de la République.
Absolument.
Au sein de la majorité.
Absolument. Et là, il y a un retournement spectaculaire. C'est-à-dire que cet homme, au fond, qui n'existait que par le président, du jour où il prend en main le parti gaulliste, d'abord l'UDR, qu'il transformera en RPR, il devient la clé de voûte de la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il peut, il est en mesure d'interdire au président de la République d'appliquer telle ou telle décision, et il rendra d'ailleurs la vie à peu près impossible au gouvernement de Raymond Barre.
Il va être obligé d'utiliser le 49-3 en permanence.
C'est ça, en l'obligeant à dire aux gaullistes, chiche, déposez une motion de censure si vous n'êtes pas d'accord. Et par conséquent, on a à partir de là un gouvernement qui n'a plus véritablement les mains libres.
Et cela au pire moment donc du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, au moment où s'achèvent les 30 glorieuses et où la situation économique et sociale commence à se dégrader. Valéry Giscard d'Estaing, le 31 décembre 1978.
Jusqu'à ces dernières années, le chômage épargnait les pays les plus riches. Depuis 4 ans, tous sont touchés. À quelques signes, on reconnaît que cette crise commence à refluer lentement comme une inondation qui se retire. Mais il faut diriger et hâter ce reflux. Ce sera l'affaire du gouvernement en 1979.
Droit au travail, droit au métier, sur ce thème, des dizaines de milliers de jeunes manifestent aujourd'hui à Paris à l'appel de la CGT et de la CFDT.
Vous êtes au chômage ?
Oui, je suis inscrite au chômage, aux environs d'une semaine à peu près.
Qu'est-ce que vous faisiez avant ?
J'étais ouvrière d'usine.
Et vous avez été licenciée ?
Licenciée, oui, fin de contrat.
Avec la CFDT ! Jusqu'à du bonheur à l'accordéon ! Jusqu'à du bonheur à l'accordéon !
Là, on vient de l'entendre, Serge Verstein, à la fin des années 70, hein, l'état de grâce du début du septennat a largement disparu. C'est vraiment la fin des 30 glorieuses, le début d'une crise où le chômage, pendant laquelle le chômage va tripler, hein, je crois qu'il était de l'ordre de 600 000 en 74, il sera de 1 800 000 en 1981, une inflation qui va jusqu'à 15%. À quoi est due cette crise qui est un peu indépendante de la volonté du président de la République?
Oui, là, on est en face de phénomènes de conjoncture mondiale. C'est dû à des déséquilibres importants dans l'économie mondiale, et pas seulement française, dans l'économie des grands pays
industrialisés. La crise du pétrole, les deux crises pétrolières.
Et puis deux crises pétrolières qui révèlent, en quelque sorte, des dysfonctionnements anciens. Une première crise qui est antérieure à l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing. Il arrive au plus mauvais moment, au moment où la crise se déclenche, dès la fin de 1973, et qui l'oblige, d'ailleurs, à partir de 1976, à changer de politique et... au lieu de la politique, au fond, de réponse à une crise conjoncturelle qu'il a appliquée entre 1974 et 1976, on s'aperçoit que désormais, on est entré dans une crise structurelle de long terme où les mesures immédiates prises entre 1974 et 1976 ne suffisent plus. Et il y a, sous Raymond Barre, sous le gouvernement de Raymond Barre, un redressement qui s'amorce et qui va être brutalement stoppé par la révolution iranienne, l'arrivée au pouvoir de l'Imam Khomeini, et le deuxième choc pétrolier. En gros, les prix du pétrole entre 1973 et 1979 ont été multipliés par 9.
Alors évidemment, ça a plombé un peu la campagne pour l'élection présidentielle de 81. On a beaucoup parlé des diamants de Giscard. Qu'est-ce qui a fait perdre Giscard en 81?
Je crois que ce qui a fait perdre Giscard en 81, c'est fondamentalement la montée du chômage, ce triplement du chômage que vous avez signalé, le mécontentement latent dans la société française, et du même coup, le fait que les Français, qui n'ont pas saisi lors des élections de 78 la possibilité de changer de majorité, progressivement, s'aperçoivent dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle de mai 81 que... il y a peut-être une possibilité que, puisqu'après tout, on connaît les faillites, le chômage, les licenciements, les difficultés de tous ordres, quel risque a-t-on de tenter une autre expérience, celle que proposent les socialistes et François Mitterrand?
Et François Mitterrand, donc, qui gagne les élections du 10 mai 1981. On écoute les derniers mots de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, deux jours avant son départ, le 19 mai 1981.
En France, la période de transition politique s'achève. Après demain jeudi, François Mitterrand entrera à l'Élysée pour prendre la tête de l'État. En fait, le septennat giscardien s'est terminé tout à l'heure à 20h. Dans un dernier message radio-télévisé, le président sortant a pris officiellement congé des Français.
En ce jour, qui marque pour beaucoup le terme de grandes espérances, je sais que vous êtes nombreux à partager mon émotion. Tourné vers l'avenir et fort de l'expérience acquise, je ferai en sorte de me tenir à la disposition de mon pays. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Au revoir.
C'était un au revoir dont on se souvient, Serge Barstein, surtout quand on l'a vu à la télévision, un décor lugubre, le président qui se lève et qui s'en va en tournant le dos aux caméras, beaucoup d'amertume, parlant d'un espoir perdu, oubliant peut-être celui de ceux qui avaient voté pour François Mitterrand, un bilan de ce septennat.
Alors, un bilan de ce septennat, au fond, Valéry Giscard d'Estaing le dit assez bien. Un septennat marqué à ses origines par de grandes espérances, par une volonté incontestable de changement, par une certaine générosité dans l'appréhension des réformes à faire pour répondre aux besoins de la société française, et puis un contexte politique qui se détériore après 76, une aggravation des situations économiques qui vont ligoter les dernières années du septennat et le contraindre à se débattre autour de problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Peut-être le grand septennat manqué de droite du second XXe siècle.
Merci Serge Bernstein. Je recommande la lecture de la revue L'Histoire qu'on peut trouver en kiosque jusqu'au 19 juin et qui pour son 25e anniversaire a publié un numéro spécial Chronique des années 70 dans lequel justement vous avez écrit un article La Révolution manquée de Giscard d'Estaing. Vous êtes également l'auteur d'une histoire du gaullisme publiée chez Perrin dans la collection de poche Tempus et puis vous avez dirigé un ouvrage collectif Les cultures politiques en France, publié dans la collection Point Histoire au Seuil, signé donc par Serge Bernstein, qui était notre invité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Anne Le Guéhennec et Olivier Riotor, documentation et archivina Virginie Bleuclenet, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation